Vous êtes sur Europe 1 dans Bienfait pour vous. Aujourd'hui, on vous pose cette question. Êtes-vous psychorigide? Alors lui, à mon avis, il est tout le contraire de cela, mais il a sûrement étudié pour nous ses personnalités difficiles pour amorcer l'émission. Bonjour Clément Lanoux.
Bonjour tout le monde. Il y a encore quelques mois, je ne savais même pas ce qu'était le mot psychorigide. Quand on me disait « je suis psychorigide », je disais « moi je suis Capricorne, enchanté ». Quel décompte. Donc rien à voir. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à cette question sous forme de test. Vous savez les tests qu'on trouve dans les magazines féminins.
On adore.
Et là, je vois déjà tout le monde s'indigner. Pourquoi les magazines féminins? Les hommes peuvent les lire aussi. J'ai une réponse à ça parce que j'en ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai appris la dernière fois que j'étais clitoridienne apparemment. Donc c'est vrai que c'est des magazines avec des tests plutôt orientés vers la gente féminine. Je m'en excuse. Êtes-vous psychorigide, homme comme femme? Vous pouvez tous participer. Attention, sortez un petit stylo, vous allez retenir. C'est parti. Trois questions pour savoir si vous l'êtes ou pas.
D'accord.
Un, rendez-vous, vous arrivez toujours. Petit A. Vous réfléchissez même dans votre tête si vous voulez, hein, Mélanie, Julia. Toujours pile à l'heure, voire un petit peu en avance. Petit B, plutôt en retard, mais juste ce qu'il faut. Ou bien petit C, vous arrivez quand vous arrivez. C'est, on verra bien.
Bon, on répond ou pas? Non, on répond pas.
Mélanie seulement, vous, répondez-moi.
Bah là, A quand même. J'arrive toujours en avance.
L'instant.
Julia aussi, non?
Je pense grave.
Ouais. Alors attention, deuxième question. Vos stylos sont rangés par couleur, petit A. Petit B, par hasard. Petit C, par quelqu'un d'autre. Ne répondez pas, ne répondez pas, ne répondez pas. On va voir à la fin. Et enfin, troisième question. Une recette de cuisine pour vous. Elle doit être petit A. C'est fait pour ne pas être modifié du tout, du tout, du tout. Petit B, ça peut être vraiment modifié, on n'est pas au gramme près après tout. Ou bien petit C, je ne cuisine pas, j'ai une cuisinière qui le fait pour moi. A, B,
Julia,
ou C, attention. Eh ben, j'ai la réponse. Alors maintenant, vous additionnez si vous avez plus de A, de B, de C. Et voici le verdict. Si vous avez plus de A, vous êtes peut-être psychorigide. Si vous avez le plus de B, vous n'êtes pas psychorigide. C'est votre cas, Mélanie.
B, ouais.
Si vous avez le plus de C, vous êtes Julia Vignali.
Ah, c'est normal.
C'était ça?
C'était tout à fait ça.
Ah bah bravo, ça fonctionne.
Mais
bravo,
vous êtes trop
Clément
fort.
Lanoux.
Bravo, merci Clément Lanoux pour cette intro qui nous a bien détendu. Mais si vous le voulez bien, on va maintenant écouter les conseils plus sérieux de nos spécialistes. Bonjour docteur François Lelore.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et psychothérapeute. Vous êtes le co-auteur avec Christophe André du livre « Les nouvelles personnalités difficiles » paru chez Odile Jacob. Avec nous également Aurélie Foucard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coach professionnel certifié. Alors je vais commencer avec vous François. On entend souvent parler de ces psychorigides. Qu'est-ce que ça signifie vraiment ce terme, cette étiquette péjorative? Je crois que vous préférez d'ailleurs le terme d'obsessionnel, vous. Pourquoi ça?
Oui, parce que quand on dit psychorigide, en général, on peut dire que c'est les gens qui ne pensent pas comme nous, parfois. On les trouve psychorigides. Alors, en psychologie, ce qu'on appelle psychorigide, mais plus généralement obsessionnel, ce sont des gens qui sont très centrés sur un désir de perfection, de suivre la procédure, qui sont attentifs aux détails, qui sont perfectionnistes, et qui ont du mal à changer de séquence, et qui ont du mal surtout à sentir qu'ils exagèrent. Parce qu'en fait, eux, ils ont un souci... La perfection, ils sont anxieux, ce sont des gens anxieux, parce que c'est une lutte contre l'anxiété. Et parfois, ils peuvent être très fatigants à vivre, parce qu'ils vont même essayer d'imposer leur manière de faire à leur entourage.
Oh, ça me fatigue déjà. Aurélie Foucard, vous êtes coach professionnel. J'imagine que des personnalités psychorigides, vous avez dû en croiser dans votre pratique. Est-ce que ce sont des personnalités qu'on retrouve ou alors dont on se plaint fréquemment, notamment dans le milieu professionnel?
Oui, alors c'est sûr qu'on en trouve pas mal, mais je dirais au moins autant que les agressifs ou alors les paranoïaques. Je ne sais pas s'il y a un secteur particulièrement représenté. Il y a presque un peu le cliché des psychorigides dans les métiers techniques ou qui font appel aux chiffres. Mais je crois qu'on peut en trouver aussi, même dans des métiers très créatifs, par exemple. On a tous en tête cette image du couturier très exigeant ou du comédien ultra obsessionnel.
Ça peut être un psychorigide, quelqu'un de comme ça, même de créatif, mais qui est pointilleux.
Absolument, oui. Oui, parce que c'est un trait de personnalité.
François Lelore, psychorigide, c'est un terme qui est d'ailleurs un peu galvaudé. On peut dire ça un peu à n'importe qui quand on est face à quelqu'un qui est un peu coincé, un peu rigide. C'est facile à dire, hein, psychorigide, mais ça ne correspond pas finalement à tous les gens qu'on nomme de cette façon-là.
Oui, surtout qu'il y a des raisons différentes. Par exemple, on est tous assez psychorigides sur nos valeurs et notre identité. Je veux dire, discuter politique avec quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec vous, et vous allez très vite voir qu'il est psychorigide et que vous aussi.
Oui.
Et de même, on est tous psychorigides un peu sur notre image de nous-mêmes, si on s'estime quelqu'un de plutôt gentil, plutôt malin, plutôt quelqu'un qui va vous expliquer non, pas du tout, on est en fait égoïste et puis malin, on a quand même de sacrées limites. Mais on va vite devenir psychorigide. Mais quand on parle de quelqu'un de psychorigide, en termes de personnalité, il y a deux critères. Il faut d'abord que ça, c'est quelqu'un qui ait toujours été comme ça, pas juste en ce moment, et qui soit comme ça dans différentes situations de la vie.
pas qu'au travail ou pas que
voilà,
dans la vie perso.
Voilà, parce que c'est juste quelqu'un avec qui vous avez un conflit. Bon, mais c'est pas forcément qu'il est psychorigide. Mais quand il y a ces deux critères, bah oui, ça se retrouve beaucoup dans les personnalités obsessionnelles, puisque comme ils sont mus par un désir de perfection, vu de leur point de vue, et une lutte contre l'anxiété, parce qu'ils ne veulent pas d'incertitude, ils ne veulent pas risquer de faire des erreurs, etc., et bah, ils sont effectivement assez psychorigides quand on leur dit, bon, arrête de faire ça trop longtemps.
Il va falloir rassurer Julia, hein, parce que depuis tout à l'heure, vous parlez, elle me regarde, elle me fait, je crois que je suis comme ça,
je suis pas mal comme ça, mais justement, la question qui me vient, c'est est-ce qu'on peut être psychorigide avec soi-même et très heureuse de l'être, et ne pas l'imposer aux autres.
Vous n'êtes pas trop avec les autres, c'est ça. Moi, je trouve que socialement, vous êtes bien, franchement.
Est-ce qu'on peut être psychorigide dans son coin?
Je crois que ça, c'est vraiment une question d'intensité, de degré. Par exemple, on peut être quelqu'un peut-être un peu psychorigide sur soi en se mettant des objectifs élevés, en ayant des habitudes régulières, etc. Mais accepter que le reste du monde n'ait pas les mêmes élans, les mêmes valeurs et être assez tolérant. Oui, ça, c'est tout à fait possible.
Donc, ce n'est pas le vrai obsessionnel pathologique, ça,
non,
ce que vous avez décrit.
Non. Bah, non, parce que ça dépend. L'obsessionnel, comme dans tous les troubles de personnalité, il y a des gens qui ont une conscience de leurs troubles, qui savent qu'ils sont un peu trop maniaques, perfectionnistes.
C'est déjà un bon truc,
voilà,
non?
Voilà, qui en tiennent compte. Et il y en a simplement qui pensent que les autres sont des inconséquents, des irresponsables et qu'on doit faire comme eux.
Dites-moi, docteur, est-ce qu'il y a des avantages à être obsessionnel ou c'est que des défauts?
Je pense qu'à dose modérée, ça peut être un facteur de réussite, parce que les obsessionnels, en général, ils vont au fond des choses, ils font bien. Ça peut être des bonnes recrues. Enfin, Aurélie nous en dira plus, mais si c'est contrôlé, moi, je préfère monter dans un avion conçu, vérifié, construit par des obsessionnels, si vous voulez.
Bon, et moi, j'adore présenter une émission avec une fille un peu obsessionnelle. Merci à tous les deux. On reste ensemble. Bien fait pour vous. Se poursuit juste après. Êtes-vous psychorigide? Vous, non, peut-être, mais je suis certaine que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui l'est, avec qui vous marchez parfois sur des œufs. On va vous aider à mieux les comprendre, à les gérer dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Je dépasse aisément toutes les limites. Quand je commence, je consomme énormément. Le but est de ressentir les choses. Alors je dépasse et j'aime en faire. Des tonnes, ça irrite les braves gens pleins de raisons qui respectent les limites.
C'était Les Limites à la sauce Julien Doré, de retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, de mieux vivre. On s'intéresse à ces personnalités difficiles aujourd'hui, les personnes dites psychorigides. Comment mieux les accepter et les gérer? Pour en parler, nous sommes toujours en compagnie du psychiatre François Lelore et d'Aurélie Foucard, coach professionnelle. Alors justement, Aurélie, de prime abord, les psychorigides, on en a dit quelques mots plus tôt, ils font plutôt bonne impression au travail, non? Je ne sais pas, ça a l'air sérieux, ça a l'air rigoureux, un psychorigide. Ce sont presque des employés idéaux, non?
Oui, donc c'est là toute la difficulté, parce que le psychorigide au départ fait bonne impression, parce qu'il a des défauts qui sont en fait socialement acceptables. L'exigence, le perfectionnisme. Vous avez remarqué que le perfectionnisme, c'est le défaut qu'on accepte le plus volontiers de dire en entretien d'embauche. Mmh. Donc au départ, ils font plutôt bonne impression, mais c'est après en fait qu'ils vont exaspérer. Quand ils se ferment, comme le disait François, quand ils se ferment complètement à l'autre, à la relation, quand ils sont complètement centrés dans leur monde et que finalement il n'y a plus de dialogue et de relations possibles.
François Lelore, qu'est-ce qui cause problème alors chez ces personnalités obsessionnelles? Déjà pour eux, est-ce qu'ils souffrent? Si oui, de quoi? Je ne sais pas, je les imagine perdre du temps sur des détails insignifiants. Est-ce que c'est ça leur vie?
Ils trouvent comme une satisfaction à faire les choses comme elles doivent être faites, quoi. Mais ils peuvent effectivement se surcharger parce que ça peut être épuisant. Ils peuvent effectivement avoir du mal à goûter des instants de détente ou de repos, parce qu'ils sont toujours préoccupés, parce qu'il reste à faire, parce qu'on n'a pas bien fait, parce qu'il faudrait bien faire. Et donc, parfois, à mon avis, ils peuvent risquer de s'épuiser. Et puis alors, ils ont quand même des problèmes relationnels aussi. Et donc, ça, ils en souffrent. Enfin, je veux dire, après tout, les psychorigides ont besoin d'amour aussi.
C'est quoi leur problème relationnel? Les autres ne les aiment pas beaucoup?
Souvent, ils peuvent être pas très fun, disons. Mm-hmm. Et puis, être assez critique, c'est-à-dire donner aux autres l'impression que non, les choses ne sont pas bien faites. Et comme par ailleurs, ils ont en général du mal à exprimer, dans l'informel, ils ne sont pas très à l'aise. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à exprimer des sentiments chaleureux, à plaisanter, à être drôles. Vous voyez, ils ont quand même souvent un problème un peu de... C'est ce que décrivait Aurélie. Ils sont bons en entretien d'embauche, parce que c'est quelque chose de formel, l'entretien d'embauche.
Il y a un cadre qui leur convient.
Mais dans l'informel, ils risquent quand même d'être beaucoup moins agréables.
Et justement, dans le milieu professionnel, une fois que l'entretien d'embauche est fini et qu'on est sur le tas, dans le boulot, ce ne sont pas ceux qui risquent justement, avec leur rigueur comme ça, de terminer en burn-out, pas plus que les autres peut-être ?
Ah oui, absolument. Ça peut conduire à l'épuisement professionnel, au burn-out, et puis... à l'isolement total.
Mais j'imagine que travailler avec quelqu'un de psychorigide, un patron psychorigide ou un collègue, ça doit être épuisant au quotidien, non ? Parce que je crois que le problème ne vient pas uniquement de leur côté perfectionniste, c'est aussi qu'ils ont un vrai, vrai, vrai problème relationnel, comme on le voyait avec François. Moi, je pense que ce n'est pas souhaitable, non, d'avoir un patron psychorigide.
Ah oui, absolument. Alors, non seulement parce que ça peut conduire à ne jamais voir aboutir les projets, parce qu'en fait, c'est jamais assez bien pour le patron psychorigide, et en plus parce qu'il y a des attentes qui ne sont tout simplement pas des attentes saines et normales pour un salarié qui subit un manager psychorigide.
Ça veut dire qu'un manager psychorigide, si on doit se poser la question de savoir si on en a un, par exemple, ça pourrait être cette personne qui ne vous félicite jamais ?
Oui, mais alors ça, ce serait presque le degré zéro du psychorigide, parce qu'après, il peut y avoir des cultures d'entreprise dans lesquelles il y a assez peu d'encouragement de façon générale. En revanche,
puis il y a des entreprises psychorigides, en fait, c'est ça?
Oui, hein, c'est-à-dire qu'il y a des cultures toxiques, et notamment, je voudrais insister là-dessus, parce que quand ces comportements, sans être encouragés, ne sont pas combattus, on peut avoir à la tête d'entreprise des cultures qui se mettent en place de modèles, en fait, de patrons psychorigides qui vont dont les comportements vont en fait se propager ensuite sur les équipes.
François, on a justement peut-être des auditeurs qui se disent, tiens, je me demande si au boulot, lui, un tel ou un tel, un chef d'ailleurs, ou même un subalterne, l'est pas. Qu'est-ce qui nous permettrait de l'identifier, justement, pour ceux qui se posent la question? Est-ce qu'il y a un ou deux critères là qui permettent de les repérer dans l'entreprise, par exemple?
L'impression qu'il se soucie à l'excès des détails au détriment du but général. L'impression aussi que il n'est jamais détendu, enfin, il est toujours dans une tension permanente. Et aussi, ce qu'on voit, alors ça ne va pas forcément avec la psychologie, mais chez les obsessionnels, il y a souvent des phases de doute, c'est-à-dire des doutes sur a-t-on atteint la perfection, a-t-on fait bien le travail. Donc parfois, il peut y avoir psychorigidité, certes, mais aussi doute et anxiété. Et puis surtout, ce qui complète un peu le tableau, c'est cette difficulté à être dans l'informel, dans le dialogue informel, ouais, à rester complètement centré sur l'objectif.
Aurélie, comment on fait pour renforcer son mental quand on travaille avec quelqu'un de psychorigide? Est-ce que vous avez des conseils? Comment on se protège de ces gens-là?
Là, c'est pour les autres, hein, c'est ça.
Alors, là, je pense que ce qui est très important au départ, c'est de comprendre que ce n'est pas soi le problème. Parce que le psychorigide peut mettre la personne la conduire à penser que c'est pas assez bien, qu'elle a donc un problème, qu'elle n'a pas de valeur, que son travail n'a pas de valeur. Donc, renforcer l'estime et la confiance de la personne qui subit une personne psychorigide, ça, c'est très important, qu'elle se sente solide, qu'elle voit que voilà, le psychorigide a des attentes démesurées, pas humaines probablement, et qu'elle puisse rester vraiment dans son assise.
Est-ce qu'il faut affronter un psychorigide? Est-ce qu'il faut lui dire qu'on n'est pas d'accord avec justement son diagnostic à lui d'une situation, en disant « moi je trouve que j'ai bien effectué la tâche et voilà, le résultat est bon et je ne suis pas attachée à ce détail qui ne compte pas », on peut l'affronter?
Là-dessus, je conseille toujours d'avoir des zones, d'identifier les zones non négociables, les choses sur lesquelles on ne va pas céder. Parce que peut-être on est soi-même en responsabilité sur ce projet ou sur ce sujet. Et donc là-dessus, ce sera non négociable. Et effectivement, comme vous le dites, on va en parler. Et d'autres sur lesquelles potentiellement on va céder.
Professeur, pourquoi pas, excusez-moi, François, si vous me permettez.
Mais ça n'est pas nécessaire.
François. Elle est un peu stricte, hein, comme ça, Julien, sur les titres.
J'ai décidé que vous soyez professeur. François, est-ce qu'il faut dire à un psychorigide qu'il est psychorigide si on le croit?
Non, parce que le terme psychorigide est assez dévalorisant, il n'est pas loin d'une insulte.
Oui.
Non, mais quand quelqu'un, par exemple, vous demande de trop de détails, trop de respect de la procédure, c'est plutôt le modèle obsessionnel. Il y a une autre forme de psychorigidité dont on n'a pas parlé, c'est le côté un peu parano. Mais dans le psychorigide obsessionnel, c'est-à-dire anxieux, soucieux de tout faire parfaitement, c'est lutter contre lui, enfin lutter, lui présenter des arguments également obsessionnels, lui dire oui d'accord, mais si on fait comme ça, au final ça va nous consommer tant de temps, ça va nous coûter tant d'argent, donc au final le résultat ne sera pas si bon. C'est-à-dire d'arriver à rentrer dans sa manière de penser un peu obsessionnelle, pour arriver peut-être à le ramener lui-même à la raison.
François, vous en parlez dans votre livre, vous parlez de la froideur relationnelle des psychorigides. Rigide, ça fait froid, hein, cela dit, ça va bien ensemble. C'est-à-dire quoi, qu'ils sont vraiment pas à l'aise en société, ils se méfient des autres. Comment vous caractérisez ça?
Non, c'est pas de la méfiance, mais c'est que, si vous voulez, leur espace mental est occupé par des normes, des détails, des procédures, des résultats à atteindre, etc.
Mais ce à qui la laisse maison peu aussi, de place à la chaleur humaine, alors.
Voilà, à la maison aussi, que tout soit bien rangé, bien vérifié, que la réparation qu'on doit faire soit absolument faite. Quelqu'un d'obsessionnel, il a toujours une to-do list en retard et toujours il veut y arriver. Et évidemment, une to-do list, par définition, ça se reconstitue toujours. Mmh. Donc, ce n'est pas forcément qu'il n'aime pas les autres, mais qu'ils sont encombrés, en fait.
Oh là là là, vous avez tellement raison quand vous en parlez. Mais c'est vrai, les autres deviennent encombrants. Oui. Puisqu'on a tellement de choses en tête.
En fait, on est en séance, là, Julia.
Non, on n'est pas en séance, mais c'est très intéressant, effectivement. Et si on enlève une to-do list à un obsessionnel, il se passe quoi? Si on lui interdit de se faire des to-do list?
Ben, s'il est volontaire, peut-être qu'il peut... Non, mais on peut apprendre à quelqu'un d'un peu obsessionnel les joies de la détente. Non, quand même, on a tous une capacité à changer, non pas de tempérament, mais quand même de se modifier un peu. Donc, avec quelqu'un d'un peu trop obsessionnel, ben, il faut être capable de trouver, par exemple, le loisir, quand même, qu'il apprécie, en essayant qu'il ne le fasse pas non plus de manière obsessionnelle, et qu'à ce moment-là, il y ait un vrai instant de détente. Non, parce que comme ils sont toujours quand même très tendus, assez fatigués, ils peuvent goûter la détente.
Mais c'est tout ce que vous décrivez là, notamment avec les to-do list en pagaille qui ne cessent de s'allonger, on parle de personnalité difficile depuis tout à l'heure, mais est-ce que ce n'est pas quand même un peu pathologique? Ça fait penser aussi un petit peu au TOC. C'est la même chose?
Ah non, les TOC, c'est un autre degré, puisque là, ça, si vous voulez, on dit personnalité difficile quand ça crée de la souffrance pour soi ou pour les autres. Mais ça peut être modéré. Les TOC, c'est un trouble. Et d'ailleurs, tous les obsessionnels ne font pas des TOC et tous les TOC n'ont pas une personnalité obsessionnelle.
TOC, c'est bien
avant.
Trouble obsessionnel compulsif.
Oui, voilà. Et là, qui se traduit par des rituels. Et même la personne trouve que ces rituels sont absurdes. Alors que quelqu'un qui est un peu obsessionnel, il trouve que son rangement, ses rituels, ben, c'est plutôt bien.
Et il a raison. Merci à vous deux. On sera de retour avec vous dans quelques minutes. On vous explique ce matin comment comprendre les personnalités psychorigides, comment les gérer au quotidien ou tenter de les faire un peu changer au moins. Est-ce que c'est possible? On va voir ça dans quelques minutes. Alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Et merci si vous êtes avec nous depuis le début de l'émission. On s'intéresse aux personnalités obsessionnelles, ceux qu'on étiquette parfois de psychorigides. On les analyse avec le psychiatre François Lelore et avec Aurélie Foucard, coach professionnel. François Lelore, on a beaucoup parlé des psychorigides au travail, mais est-ce que ça concerne tous les domaines de leur vie? A priori, vous y avez répondu plutôt oui. On n'est pas forcément psychorigide au travail et pas du tout à la maison. Comment ça se traduit, ce manque de souplesse, notamment dans la vie de couple, par exemple?
Oui, ben, le tempérament, la personnalité obsessionnelle, c'est dans tous les domaines de la vie. Alors, comme disait Aurélie, il y a des entreprises qui vous rendent comme ça au travail, mais pas forcément à la maison. Ben, ça se manifeste, là encore, par un souci, par exemple, des horaires, de l'exactitude, du rangement, de la prévision, de la prévention des risques, et disons de la bonne, de tout doit idéalement être bien fait. Alors cela dit, il y a des professionnels qui ont des zones, c'est-à-dire qu'ils vont être très exigeants, je sais pas, sur le rangement dans la maison, mais
dans le salon, mais pas dans la chambre. Non, c'est
oui,
pas possible,
bah ça, mais par exemple, procrastiner et ne pas mettre à jour leurs papiers, par exemple.
Ça veut dire que du côté administratif, ils sont
ouais,
un peu foutraques.
Ouais. Alors, ils sont angoissés, ils ont leur to-do list dans la tête, mais ils ont du mal à la faire. Ça, c'est l'obsessionnel un peu fatigué, un peu trop fatigué, épuisé. C'est-à-dire qu'il est accablé en pensant à toute la to-do list, mais il n'arrive pas à s'y mettre.
Mais alors, ça vient d'où, la psychorigidité comme ça? Est-ce que ça vient forcément de l'éducation? Vous avez dit tout à l'heure, est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que ça naît dans l'enfance? Vous avez dit tout à l'heure, en général, un psychorigide, il l'a toujours été. C'est-à-dire qu'il y a des petits-enfants psychorigides?
Ah oui, il y a déjà des petits-enfants rangeurs qui n'aiment pas la saleté.
Vous étiez comme
qui...
ça, petite?
Oui, moi, je rangeais mon quart de Barbie, je me réveillais dans la nuit pour le ranger.
Ah oui.
Mais c'était peut-être un TOC, déjà. Je ne sais pas trop.
C'est un TOC, mais moi, je connais un petit garçon, par exemple, qui ne supporte pas d'avoir du sable mouillé collé sur les pieds.
Ah, mon fils était comme ça.
Il faut approcher la serviette, vous voyez, bon. Et donc, oui, ben, c'est comme toujours, la joke, c'est de dire que c'est toujours la faute des parents, puisque c'est soit l'éducation, soit les gènes, et souvent un mélange des deux, en fait. Voilà. Et puis, alors, il y a aussi la culture. Il y a des cultures quand même plus psychorigides que d'autres. C'est-à-dire que, bon, par exemple, pour le Japon...
J'allais dire, en Asie...
Bon, ben, là, il y a quand même un souci de la chose bien faite, de la perfection.
La Suisse.
la Suisse.
Très beau pays.
Et il y a même un nom allemand que malheureusement je ne sais pas dire, je ne suis pas germanophone, qui désigne la folie de la femme au foyer qui n'arrête pas de faire le ménage. Et c'est un nom spécifique en allemand. C'est un des premiers cas de troubles obsessionnels décrits au 19e siècle.
La Vignale.
Peut-être. C'est-à-dire que c'est des femmes qui ne pouvaient pas arrêter de faire le ménage, tout en ayant conscience que c'était trop, mais c'était favorisé par la culture, bien sûr.
Aurélie, ça donne quoi en entreprise concrètement? Ce sont des collègues qui vont tout le temps critiquer aussi notre travail, nos méthodes. C'est ça aussi au quotidien?
Oui, exactement. Pour qui ça n'est jamais assez bien, pour qui il y a toujours quelque chose de mieux à faire. En fait, ils ont une vision très, très limitée. Et évidemment, ça laisse très peu de place à la créativité, à la collaboration déjà. C'est-à-dire que travailler avec un psychorigide laisse très peu de place à cette collaboration, à la prise de risque, à l'innovation. Et donc, c'est très fermé.
Est-ce qu'un psychorigide arrive à déléguer au boulot?
Ça peut être très compliqué, ou en tout cas délégué, mais tant que c'est fait comme il a prévu que ce soit fait.
S'il a réussi à bien dresser l'autre, ça va, mais voilà. Si ce n'est pas le cas, ça ne marche pas. Mais alors, c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire là les managers psychorigides, mais c'est forcément des gens qui arrivent à forcément obtenir quand même des responsabilités plutôt, ou pas forcément?
Oui. Ah oui, on en trouve bien sûr à tous les niveaux de l'organisation, et évidemment... c'est encore plus délicat quand on est face à des personnes qui sont à la direction de l'entreprise.
Mmh. Puisque ça serait difficile de réussir dans l'entreprise et arriver à monter les échelons plus facilement que les autres, peut-être, non?
Oui, je dirais que ça dépend à la fois de son degré de psychorigidité et puis de ses autres talents. C'est-à-dire s'il est très intelligent, s'il a une capacité.
Oui, parce qu'ils n'ont pas que des défauts,
choses,
ces gens-là, ils ont des qualités
dans,
aussi.
Dans toutes les personnes difficiles, ça dépend aussi des autres ingrédients qui accompagnent, si vous voulez.
Aurélie, comment vous faites quand vous êtes dans le monde de l'entreprise confronté à ce type de problème? Qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos auditeurs qui ont donc on a déjà parlé à un collègue éventuellement psychorigide. Je crois qu'il vous dit qu'il ne faut pas hésiter à beaucoup communiquer, même si ce n'est pas facile. Est-ce que vous avez un conseil justement comment on communique concrètement dans le travail avec un psychorigide?
Sans braquer le psychorigide.
Bon, on a compris qu'on ne lui disait pas que tu es psychorigide. C'est une insulte.
Oui, donc ça demande de bien communiquer, d'être dans une forme de négociation, d'avoir bien séparé et choisi en fait nos batailles. Donc il y a des choses sur lesquelles potentiellement on va céder, quitte à dire... Ah, ce mail ne te va pas, donc écoute, dis-moi, tu veux qu'on écrive quoi dedans, voilà. Et d'autres, en revanche, sur lesquelles on sera beaucoup plus ferme. Et là, quitte à être même un peu ferme sur ses convictions et à dire pourquoi on veut faire les choses autrement.
François, je crois que vous ne conseillez pas de pratiquer l'humour avec un psychorigide. Ça ne sert à rien de
se moquer de lui.
Ouais, un peu.
Alors, on peut tout voir, il y a quand même des psychorigides qui ont le sens de l'humour. Mais je dirais que ce qui est important, c'est de lui montrer qu'on reconnaît ses bonnes intentions. C'est-à-dire... montrer un peu d'empathie en disant bah, écoute, je sais que tu veux que ça soit fait parfaitement, je sais que tu as vraiment
et c'est une qualité, c'est une grande
pour cette mission. Et je crois que c'est important de montrer au psychorigide qu'on ne se moque pas de lui, qu'on ne dévalorise pas son attitude, mais qu'on lui montre qu'on comprend ses bonnes intentions et qu'on respecte d'ailleurs aussi ses qualités.
Et d'ailleurs, vous dites aussi que vous recommandez à ceux qui côtoient justement des psychorigides de ne pas hésiter à se montrer envers eux fiables, prévisibles.
Ah oui.
Ils ont besoin de ça.
Bah oui, parce qu'ils sont mus par l'anxiété, donc il faut les rassurer.
Pour c'est gagner leur confiance, en fait, c'est
il
ça.
Il faut effectivement. Alors parfois, on peut rentrer dans une sorte de révoltado, où au contraire, on a envie d'être moins fiable, moins exact, parce qu'ils nous énervent trop. Mais ce n'est pas productif du tout.
Ouais. Et dites-moi, là, on n'arrête pas de parler d'anxiété. Comment on peut calmer un peu la bête, faire baisser l'anxiété des psychorigides?
Est-ce qu'il y a des médicaments qu'on peut donner en entreprise?
Non, mais comment, je ne sais pas, vous recommandez quoi? Parce qu'on ne le fait pas exprès, vous voyez ce que je veux dire? Donc,
elle se met dedans, ça y est, c'est officiel.
Mais vous dire, quand on est psychorigide, comment se calmer? Un bon coaching, par exemple, avec Aurélie. Il y a aussi les techniques de détente, toutes les techniques un peu corporelles, centre autour de la relaxation.
Yoga, tout ça?
Le yoga, la méditation. Soit les approches un peu corporelles, soit les approches, comme on dit, un peu plus cognitives. C'est-à-dire qu'on peut faire en coaching ou en psychothérapie, aller voir un peu les schémas de la personne. Dire pourquoi, au fond, si les choses ne sont pas parfaites, elles deviennent angoissantes. Alors on peut aller un peu loin là-dedans.
Est-ce qu'ils ne se mettent pas parfois en couple avec leur total opposé? Parce que moi j'entends des couples comme ça, on a l'impression que l'un l'est psychorigide et l'autre pas du tout, même l'inverse.
Oui,
pourquoi ils cherchent parfois justement le juste opposé d'eux-mêmes?
C'est assez troublant,
c'est vrai,
effectivement.
Hein.
Alors on peut dire peut-être que l'un est rassuré par l'autre.
Julia, les psychorigides, ils aiment bien les artistes, par exemple.
Oui, bien, par exemple, moi ça me rassure de voir le bordel chez les autres. Je trouve ça exotique.
Oui, c'est complémentaire.
Mais c'est vraiment de l'exogamie, qu'on va vraiment se marier avec quelqu'un d'une tribu très très différente de la sienne. Et ça arrive, alors ce serait compliqué.
C'est une thérapie, ça fait partie de la thérapie, vous pensez, pour aller mieux?
Peut-être, oui, qu'en voyant l'autre finalement être un peu plus inconséquent et qu'il ne se passe pas de catastrophe, peut-être que ça vous aide à vous détendre. Enfin, je pense qu'il faut pas mal d'amour au départ.
Oui, mais c'est vrai que souvent, j'imagine que les psychorigides s'aperçoivent que la finalité il n'y a pas de catastrophe qui arrive, qu'on soit psychorigide ou qu'on ne le soit pas, finalement, tout finit par se faire, non? C'est parce qu'on observe en entreprise. C'est rare quand même que tout le monde aille à la catastrophe.
Oui, absolument, parce qu'il y a plein de cordes de rappel, il y a plein de processus en place. Donc c'est surtout, développer la personne elle-même qui souffre de psychorigidité.
Vous la faites travailler comment, vous, du coup, cette personne-là?
En travaillant, oui, sur ses aspects relationnels, notamment. Sur elle-même, sur le fait de gagner en souplesse, en fait, intérieure, gagner en aisance interne, prendre de la distance par rapport au sujet. Et puis après, dans ses enjeux relationnels, pour ne pas risquer la relation avec les autres.
Et François, le psy conseille comment de travailler la souplesse? De quelle façon vous aidez vos patients à travailler la souplesse, justement, d'esprit?
Dans l'approche qu'on appelle cognitive, on part de situations réelles et on demande aux gens de prendre conscience de leurs pensées, qui peut être par exemple les gens qui ne font pas leur travail parfaitement sont des irresponsables, ou si moi je ne fais pas ça parfaitement, il va y avoir des catastrophes, ou enfin vous voyez. Et puis de travailler un peu sur leurs pensées. Alors parfois, on peut remonter un peu dans des expériences passées. Mais en général, on travaille sur les pensées et on aide les personnes à élargir leur répertoire de pensées, si vous voulez. On va avoir toujours les mêmes.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir encore davantage sur ce sujet, je rappelle votre ouvrage, François Lelore, co-écrit avec Christophe André. Ça s'appelle « Les nouvelles personnalités difficiles », publié chez Odile Jacob. Et bien voilà, Mélanie, c'est terminé. On passe à quoi?
À notre quart d'heure des bienfaiteurs. On commencera avec Jérémy Combe. Aujourd'hui, il nous propose un petit rappel. Quelles sont les règles de savoir-vivre quand on doit se rendre à un enterrement ou présenter ses condoléances? Et puis, on va aussi retrouver Sophie Braffman. Ce matin, elle a déniché des applis de rencontre d'un nouveau genre qui change des mastodontes comme Mythique ou Tinder. Elle nous explique tout dans un instant sur Europe 1.
Bien fait pour vous sur Europe 1.